La main verte avec Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Jean, bonjour Karine. Le jardin des poulpes, avez-vous dit?
Ouais, ah, mon Dieu, quel horreur. Je sais que c'est votre animal préféré.
Voilà, vous avez parlé de mon légume préféré. Oui. Donc
Le chou. Chou romanesco. Alain, quand vous étiez petit, il était difficile de manger du chou?
Alors pour certains et surtout certaines, il était difficile de manger du chou tout court quand on était enfant. Mais là, je parle du chou romanesco qui n'était pratiquement pas connu car il n'est apparu dans nos assiettes et dans les jardins qu'à partir des années 1990 avant. On n'en trouvait qu'en Italie, ou presque, dans la région de Rome, d'où le nom d'ailleurs, chou romanesco. Eh bien, le chou romanesco, sachez-le enfin, n'est pas une variété nouvelle. Nos voisins suisses en mangeaient déjà au Moyen-Âge. Alors, s'il n'est pas nécessairement qualifié de légume exceptionnel, eh bien, il faut reconnaître qu'il est incontestablement le plus extraordinaire par son aspect.
Alors c'est vrai, le chou romanesco est une sorte de chou-fleur qui ressemble un peu à un brocoli, on peut dire les choses comme ça ?
Oui, on peut le dire, il est complexe à décrire. Moi je vais vous dire la chose suivante, c'est un chou composé d'une multitude de petits choux tous semblables et constitué de nombreuses petites pyramides disposées en spirale. Mais le mieux c'est d'aller sur internet, de voir la photo pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante assez extraordinaire.
Mais ça vient d'où d'ailleurs cette forme si complexe ?
Eh bien c'est une question que se sont posées les chercheurs du CNRS et qui ont publié un article passionnant dans la revue Science, datée du 8 juillet de cette année. Ils expliquent, je cite, que le chou romanesco, mais aussi le chou-fleur, sont en réalité formés par des bourgeons destinés à devenir des fleurs, mais qui n'atteignent pas leur but. Et oui, au lieu de cela, ils se transforment en tiges qui, à leur tour, tentent de produire des fleurs, et ainsi de suite. Donc souvenez-vous que le chou romanesco a une forme incroyable et que le chou-fleur est bien une fleur.
Voilà, vous savez tout sur le chou romanesco. Les questions toujours très nombreuses des auditeurs, des auditrices de France Inter. En l'occurrence, c'est Agnès qui vous écrit, Alain Baraton, j'ai un Saint-Polia violet dans ma maison. Il se plaisait bien depuis quelques temps. Il me fait comme des fils d'argent très fins sur les pétales et sur les feuilles. Est-il malade?
En période de fête de fin d'année, dans les arbres, il est possible, si on est attentif, d'y découvrir des lutins. Dans les maisons, dans les arbres, à l'extérieur, il y a des lutins pendant les fêtes de Noël. Regardez bien. À moins que vous ayez...
Non, mais vous croyez au conte de Noël, j'ai l'impression.
Il y a des Pères Noël aussi
Eh ben, je crois, mais dans la maison, il y a peut-être parfois autre chose. Il y a des tétranées tisserands, c'est joli comme nom. Tisserands, ce sont des acariens qui tissent des petites toiles pour mieux y développer leur nymphes.
Des guirlandes, en fait.
Voilà, en quelque sorte. Sauf que là-dedans, il y a les bestioles. Donc, le Saint-Polia est tout simplement devenu habité par un tétranique tisserand. Et il convient d'éliminer la toile pour éliminer la petite bestiole qui se nourrit de la sève et qui ne fera pas du bien à la petite plante bleue.
Donc, il est bleu, bien.
Rose ou blanche.
Donc, il y a juste à enlever, en fait.
On enlève, mais ça veut dire que les bestioles sont quand même là.
Il n'y a pas à vaporiser un truc.
Non, parce que la feuille est duveteuse du Saint-Polia. Et si on mouille la feuille, on risque de la faire pourrir. C'est pas simple. D'un autre côté, je ne devrais pas dire ça, mais l'espérance de vie d'un Saint-Polia excède rarement quelques années. Donc, voilà. Il y a un temps pour tout.
Du pessimisme pour le Saint-Polia d'Agnès. Philippe, alors lui, il s'interroge pour son Albizia Umbrella qui a 10 ans. Il perd ses feuilles depuis 2 ans. Certaines branches, nous dit Philippe, finissent même par mourir. Quelques maisons plus loin, il y en a un bien plus jeune et il lui arrive la même chose. Une explication, docteur ?
C'est compliqué, l'Albizia. C'est une plante qui n'aime pas les courants d'air, qui peut tolérer le froid, mais de manière le froid court et quand il n'est pas trop répétitif, qui a besoin d'une terre qui ne retient pas l'eau, c'est pas simple. C'est, je vais vous dire, c'est du bon sens. Quand on a une plante qui ne se plaît pas, qu'on la remplace par une autre plante identique qui ne se plaît toujours pas, eh bien mettons autre chose. Ce que je veux dire, c'est peut-être une manière de dire oui, ben le jardinier ne s'ennuie pas beaucoup quand il n'est pas capable de répondre à une question, il remplace la plante par une autre.
Non, il faut s'adapter à son territoire, à son terroir
bon
et à sa géographie.
Bah tout à fait. Oui. Quand on met un albizia qui devient fatigué, il n'arrive pas à se développer, mettez-le ailleurs, et mettez une autre plante que l'albizia. Bien sûr, la plante est capricieuse.
On prend un peu d'altitude avec Rémi qui nous dit « Nous habitons à 1600 mètres sur un versant au sol riche, très peu caillouteux. Nous y développerons bientôt un élevage de chèvres. Il nous faut le protéger des vents dominants par une haie. » Alors pour cette haie, quelles essences seraient indiquées, y compris exotiques, voire cerise sur le gâteau avec des fruits?
Oui, mais il y a un problème, c'est qu'en fait cette propriété a pour objet d'y accueillir des chèvres, voyez-vous.
Alors
en montagne, on pourrait mettre du noisetier, du rhododendron, de l'aubépine, j'adore l'aubépine, du rosier rugosa, vous voyez, du genévrier, on en trouve à haute altitude en montagne, mais les chèvres, elles, boulottent absolument tout.
Ah oui,
et on ne peut pas mettre de plantes là où il y a des chèvres, c'était pas plus compliqué. Eh oui, il faut choisir chèvre ou végétaux. Tout ce qui sera à portée de leurs délicieuses dents sera boulotté.
Donc pas de haies.
Mais pas de haies ou pas de chèvre.
Voilà, c'est le dilemme qui s'offre à Rémi. Michel nous pose une question sur le trèfle. Le trèfle est un bon couvre-sol, étouffant ses voisins indésirables. L'oxalis a-t-il les mêmes propriétés qu'Esaco?
L'oxalis, on l'appelle aussi l'ail des ours. C'est une sorte de, on va dire, de trèfle décoratif. On en voit souvent maintenant dans le commerce d'ailleurs pour orner l'intérieur. Petite précision sur le trèfle. C'est une plante extraordinaire qui est capable de sentir la présence ou non de trèfle à ses côtés. Quand c'est un trèfle à côté de lui, il ne développe que très peu de racines pour permettre à son copain de bien vivre. Quand c'est une plante autre, il en développe beaucoup.
C'est merveilleux ça.
Eh oui, le trèfle est donc envahissant. Mais donc, voilà, il faut préférer le trèfle, car le trèfle, on le retourne avec la terre, et c'est l'un des meilleurs engrais qui puisse se faire. Et puis un bouquin, si vous le permettez.
Bah oui, j'allais vous le demander.
Eh ben, j'arrive. En cette période de fête de fin d'année, le Radeau des Cimes, écrit par 4 scientifiques qui ont été sur ce radeau, vous savez, sur la canopée des forêts tropicales, pour analyser la flore, la faune, des quantités de choses. C'est un bouquin passionnant, publié chez Actes Sud. C'est un joli livre. Vraiment, le Radeau des Cimes, 30 ans d'exploitation des canopées forestières équatoriales. Voilà, et c'est publié donc chez Actes Sud.
Merci pour ce conseil, Alain Baraton. La main verte, comme tous les week-ends sur France Inter. Je vous dis à demain.
À demain.